France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Bonjour et soyez les bienvenus sur France Musique en ce samedi 21 novembre. Félix Levachet est à la réalisation, José Bernays et Emmanuel Dupuis à la technique. J'espère que vous avez passé une très agréable semaine à l'écoute de France Musique. J'ai le plaisir de vous accompagner et en très bonne compagnie en ce samedi matin. Le violoncelliste Jean-Guyenne Queyras sera avec nous à 7h45. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous emmènera en Amérique du Nord pour célébrer la voix dans toutes les musiques dites répétitive. À 8h15, notre reportage Marie Jiquel qui nous fera entendre les murmures de la forêt. Notre invitée à 8h30 sera Véronique Fermé. Elle est coordinatrice du collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur, mais aussi chargée de mission développement durable du Festival d'Aix-en-Provence. Et puis enfin, à 8h50, notre très cher Christophe Chassol qui nous parlera d'une compositrice, chanteuse, metteuse en scène et chorégraphe américaine, j'ai nommé Meredith Monk. Très bon réveil à notre écoute. Et toute la créativité du mandoliniste Avia Vital pour ouvrir l'œil ce matin en douceur. Nous allons d'ailleurs continuer avec un autre musicien que j'aime beaucoup. Il sera d'ailleurs avec nous d'ici 10 petites minutes pour partager un choix musical avec nous. J'ai nommé Jean-Guyenne Queyras, violoncelliste qui, il y a 2 ans, faisait paraître ce très beau disque chez Harmonia Mundi, un disque que j'ai beaucoup écouté. Carl-Philippe Emmanuel Bach et 2 concertos pour violoncelle peu joués, peu enregistrés. L'occasion pour nous de s'y replonger ce matin avec vous. Nous écoutons l'Andante, le 2e mouvement du 1er concerto en la mineur de Carl-Philippe Emmanuel Bach. L'Andante, le deuxième mouvement du concerto pour violoncelle numéro 1 de Carl-Philippe Emmanuel Bach, interprété par Jean-Guyen Queyras. L'ensemble Résonance et Riccardo Minasi à la direction. Jean-Guyen Queyras qui sera donc avec nous d'ici quelques minutes sur France Musique. Alors, autre chef italien en programme ce matin, Giovanni Antonini, qui se consacre depuis plus de 5 ans à l'enregistrement de l'intégrale des symphonies de Joseph Haydn. On a régulièrement l'occasion d'en parler sur cette antenne, mais cette série vient de s'enrichir d'un autre monument du compositeur autrichien, dit Schöpfung, la création, enregistrée avec le chœur de la radio bavaroise et son orchestre Il Giardino Armonico. En voici un extrait ce matin.
Oh,
Un extrait de la création de Joseph Haydn, interprété par le chœur de la radio bavaroise Il Giardino Armonico Giovanni Antonini. À la direction, c'est une nouveauté qui paraît chez Alpha. Il est 7h46. Et c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner sur France Musique. Et nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le violoncelliste Jean-Guyen Queyras. Bonjour Jean-Guyen.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Très bien. Il fait beau ici à Freiburg.
Il fait beau, déjà il fait clair.
Voilà, ça y est, le soleil se lève, il y a de beaux nuages légèrement orangés, donc ça se présente bien.
Oh, quelle merveille, puisqu'on parle de soleil, eh bien la semaine dernière vous avez joué au Brésil, Jean-Guyen Queyras à Sao Paulo avec un public dans la salle, c'est un comble exceptionnel étant donné la période que nous traversons. Vous nous racontez ?
Oui, c'est vrai que c'est une période pleine de paradoxes, pardon. Il y a deux, trois mois, quand je regardais mon calendrier, je me disais, bon, s'il y a vraiment une période que je peux déjà retirer de mon calendrier, c'est cette période au Brésil, parce qu'on sait que la situation était très compliquée là-bas. Il se trouve que le gouverneur de São Paulo et le maire aussi sont des gens qui ont pris des mesures très rapidement. Donc la situation, en fait, à São Paulo en ce moment est très bonne. Les chiffres sont dans le vert et les concerts, avec public évidemment restreint, ont repris. Donc je dois dire que c'était vraiment ce bonheur de retrouver un public présent, voilà, heureux d'être là, comme nous on était heureux d'être là, même avec les masques, même avec tout ça, mais en tout cas de pouvoir de nouveau vibrer ensemble au sens le plus concret du terme.
Et ce premier confinement, confinement du printemps dernier, vous a donné d'autres idées, Jean-Guyen Queyras, pour continuer à partager justement cette musique avec les auditeurs, avec les spectateurs. Et bien, ce sont des ateliers que vous avez lancés sur une plateforme de streaming, Idagio Bach Workshop, donc des ateliers autour des suites de Bach, pour lesquels vous invitez des amis musiciens, des connaissances. Racontez-nous, comment avez-vous monté ce projet?
Ben oui, je crois qu'on a tous voulu, d'une manière ou d'une autre, voilà, continuer à partager autant que faire se peut. Donc moi, personnellement, bon, j'ai fait comme tout le monde, évidemment, quelques concerts en ligne, etc. Mais ça, je trouve que le concert en ligne est vraiment, comment dire, c'est quand on n'a vraiment pas le choix. Il faut le faire, donc on le peut. Mais ce que je trouvais, c'est que sur le plan de la transmission, sur le plan de la pédagogie, il y avait quelque chose à faire. Donc je me suis lancé effectivement dans cet atelier. C'est un petit peu fou parce que c'est un projet à long terme, 36 épisodes, puisque l'idée, c'est un mouvement d'une suite de Bach, un atelier. Donc j'ai commencé vraiment chronologiquement, prélude de la première suite, et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et hier était le 24e épisode, et donc l'idée, c'est que dans chaque épisode, pendant une quinzaine, vingtaine de minutes, je présente le mouvement du jour, je l'analyse un peu, je donne quelques conseils pour les violoncellistes qui regardent, je donne quelques idées, je partage un petit peu ce qui me fait vibrer dans cette musique, et aussi techniquement, ce que j'ai comme petite, ma petite cuisine, quoi. Et puis ensuite, il y a effectivement, dans chaque épisode, un invité, et l'invité est là pour donner vraiment une perspective. Justement, pour donner un peu plus de champ, s'éloigner de la cuisine violoncellistico.
C'est ça que j'allais dire, il n'y a pas que des violoncelles parmi vos invités.
Exactement, et donc au contraire, j'ai voulu dans les invités vraiment avoir des gens de tous les horizons différents. Donc Anne-Thérèse Kerfmaker, chorégraphe, était ma première invitée. Mon deuxième invité, c'était Pierre-Laurent Emma. Ensuite, plus tard, Éric-Emmanuel Schmitt est venu. Donc Lambert Wilson, donc vraiment des gens, tous ceux que... Et parce que on a la chance que ce chef-d'œuvre, les suites de Bach, ça fait vraiment vibrer. On peut vraiment dire que ça fait vraiment vibrer tout le monde. C'est quelque chose qui est partagé bien au-delà du monde des violoncellistes, bien au-delà du monde des musiciens. Et j'ai invité même au-delà du monde des mélomanes. Je crois que c'est vraiment une de ces œuvres que des gens qui ne se considèrent pas comme mélomanes, qui ne sont pas habitués à la musique classique, écoutent. Voilà. Donc, ça a été une expérience très enrichissante pour moi. Ça continue à l'être. Je dois avouer, j'ai une petite mauvaise conscience, mais j'avais pas trop le choix. Ces ateliers sont en anglais, c'est en anglais avec mon mon petit accent vient de chez nous, mais voilà, toute cette série sur Aidagio, ça se veut dans ce qui est maintenant l'espéranto, qui est l'anglais, donc ça se fait en anglais, voilà, avec parfois le dialogue avec l'invité en langue française. Quand j'ai eu l'écrivain Eric Emmanuel Schmitt, je voulais qu'on profite d'un écrivain qui parle dans notre langue, donc ce segment-là était en français. Et puis j'ai invité mon père aussi une fois, qui avait un petit élément autobiographique, et il n'était pas à l'aise en anglais, donc on a fait ça en français.
Voilà, en tout cas il y a encore d'autres épisodes à venir, à suivre évidemment, parce qu'effectivement on n'aura jamais fini de parler de ces suites. Jean-Guyen Queyras, vous nous présentez votre choix musical?
Oui, alors j'ai choisi un enregistrement de mon ami Alexandre, mon ami de longue date, mon compagnon de route, Alexandre Tarot. Et du coup, il vient de ressortir chez Warner une sorte de portrait d'Alexandre de toute sa carrière. Et donc, il y a un de ses premiers enregistrements, je pense que ça doit être juste au moment, ça date du moment où on s'est rencontrés dans les années
1992.
Voilà, 1992. Mais c'est vraiment juste le moment où on s'est rencontrés quelques années après, on commençait à jouer ensemble. Et c'est une Noctuelle de Ravel.
Merveilleux. Merci beaucoup, Jean-Guyen Queyras, d'avoir été des nôtres ce matin. Je vous souhaite une très belle journée sous le soleil de Freiburg. Et puis à très bientôt sur France Musique.
Merci beaucoup, chère Saskia. Et je voulais juste annoncer, j'espère que ça va se faire, le 3 décembre avec l'Orchestre National de France.
J'allais le dire, cher Jean-Guyen. Ne vous inquiétez pas. On écoute d'abord Ravel et Alexandre Tarot. Et puis j'annoncerai vos dates de concert à venir. C'est promis.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir. Thank you.
Noctuel extrait des miroirs de Maurice Ravel, interprété par Alexandre Tarot. Un extrait de ce coffret intitulé Le poète du piano, paru chez Erato. C'était le choix de notre invité ce matin, le violoncelliste Jean-Guy Enqueras, qui est artiste en résidence à Radio France. Alors, quelques dates de concerts à venir. On croise les doigts, en tout cas pour qu'elles soient maintenues, notamment ce concert du 3 décembre prochain, où Jean-Guy jouera les variations sur un thème rococo de Tchaïkovski avec l'Orchestre National de France, Emmanuel Krivine à la direction. En tout cas, concert qui sera diffusé sur l'espace concert de France Musique. Vous pourrez le voir, l'écouter aussi sur France Musique. Et puis, autre concert à son agenda, ce sera dans le cadre du festival Présence, le 6 février prochain, la création d'un concerto pour violoncelle de Benjamin Attahir. Et sans oublier la sortie de ce disque, coffret Harmonia Mundi, qui réunit tous les enregistrements de duo et trio de Beethoven avec d'autres complices du violoncelliste, à savoir Isabelle Faust et Alexander Melnikov, un coffret paru en partenariat avec France Musique. La Lettre du Musicien est un magazine mensuel qui analyse l'actualité de la musique grâce à des enquêtes, des reportages, des portraits, des interviews. Il s'intéresse à la vie des orchestres, des conservatoires, mais aussi aux politiques culturelles. Et il vient de publier son premier guide numérique en partenariat avec France Musique. Avec le confinement du printemps dernier, de très nombreuses solutions d'enseignement à distance et de nouvelles plateformes sont apparues. Et la Lettre du Musicien les a testées pour nous. Alors ce guide s'adresse aux interprètes, aux compositeurs, aux amateurs, mais aussi aux parents d'élèves et aux enseignants. Pour emporter ce guide numérique ce matin, je vous propose de tenter votre chance sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous cliquez sur Contactez-nous et vous nous laissez vos coordonnées complètes. Et puis la bonne réponse à la question qui va suivre, vous recevrez peut-être ce guide numérique d'ici quelques jours. Alors ce matin, je vous propose de deviner le nom du guitariste que nous écoutons. Est-ce Thibaut Garcia, Jimi Hendrix ou Chuck Berry? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous.
Samedi à l'Opéra, de 20h à 23h, Judith Chen, France Musique.
Aïda de Verdi, dans une version inédite donnée il y a quelques semaines à la Scala de Milan, est à l'affiche de Samedi à l'Opéra. Les 100 mesures qui ouvrent le troisième acte ont été trouvées au fond d'un coffre de la villa familiale du compositeur. Une soirée exceptionnelle, emmenée par les voix d'Anita Rajvelishvili, Sayoa Hernandez et Francesco Melli, dirigée par Riccardo Chailly. Branchez-vous.
Samedi à l'Opéra, à retrouver sur France Musique et en podcast sur l'application Radio France. France Musique.
France Musique.
Vous allez là, do, ré.
Vous allez là.
France Musique, il est 8h01. Et Marc-Olivier Dupin est avec nous ce matin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi de revisiter un certain répertoire vocal et choral américain.
Oui, l'Amérique est toujours d'actualité, et en particulièrement en musique, avec des œuvres du XXe siècle de compositeurs de musique savante, dites répétitives. Exemple, avec un extrait du grand classique Einstein on the Beach de Phil Glass, composé en 1975.
Difficile à chanter, hein, ça, Marc-Olivier.
Oui, parce que le mode de vocalité est tendu, la tessiture est aiguë pour un débit qui s'apparente plus à un discours parlé que mélodique. Et même pour de bons chanteurs, la répétition des motifs n'est jamais complètement identique. Il y a donc mille périls. Facile de se tromper en prenant le mauvais aiguillage thématique ou en faisant une erreur rythmique.
Mais d'où vient cette écriture rythmique, Marc-Olivier ?
Alors, du père Stravinsky, toujours, notamment avec Noce, composé en 1923, qui a été une source d'inspiration pour tous, pour Boulez, Bernstein et quasiment tous les compositeurs se servant de papier à musique qui ont suivi.
Dans quelles œuvres du répertoire américain de la fin du XXe siècle retrouve-t-on ce style d'écriture ?
Généralement dans les formes qui sont en lien avec le théâtre musical ou l'opéra. Écoutons un extrait du Night Chorus dans The Death on Klinghoffer, composé par John Adams en 1991.
J'adore ça, Marc-Olivier. Allez, un petit dernier extrait pour terminer.
Oui, de Steve Reich, une polyphonie extraite de Proverbes qui est composée en 1995. La mélodie s'y développe simplement en s'inspirant tout à la fois de la musique ancienne et de procédés inventés par Stravinsky, et puis bien sûr d'un goût enivrant pour la répétition. C'est un équilibre extraordinaire entre tous les ingrédients.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour ces magnifiques extraits d'œuvres qui donnent envie de se replonger, hein, et d'écouter ça dans son intégralité. Merci beaucoup Marc-Olivier, on vous retrouve la semaine prochaine sans faute. D'ici là, sur francemusique.fr, je vous souhaite un très très bon week-end.
À vous aussi.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique. Thank you.
Farandole, extrait de la deuxième suite, l'Arlésienne de Georges Bizet avec Mung Mung Chung à la direction de l'Orchestre de la Bastille. Georges Bizet dont on parlera certainement avec notre invité à 8h30 qui sera Véronique Fermé, chargée de mission développement durable du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Bizet, dont le Carmen, cette production donnée il y a 2 ans, était 100% éco-conçue. On en parlera donc longuement avec Véronique Fermé d'ici une petite demi-heure. Pour l'heure, Mozart est au programme avec un extrait de ce quintet pour piano et vent, le troisième mouvement avec Sabine Meyer et son ensemble avant, accompagné également par le pianiste Christian Zacharias. Thank you. Sabine Meyer. Christiane Zaccaria s'entourait par l'ensemble avant Sabine Meyer. Ici pour ce troisième mouvement, Rondo Allegretto, du quintet pour piano et vent, Köchel 452 de Wolfgang Amadeus Mozart. Il est 8h16. C'est l'heure de notre reportage, alors des bruits depuis la forêt pour un réveil au vert en cette période de confinement. Depuis une vingtaine d'années, David Monacchi, chercheur et compositeur italien, tente de constituer un patrimoine sonore des écosystèmes forestiers. Il arpente pour cela les régions tropicales pour trouver des grandes zones de forêt vierge. En résidence à l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique Musique, il a côtoyé Olivier Varusfeld, le directeur des équipes qui travaillent sur l'acoustique. Marie Jiquel l'a rencontré pour nous.
Le projet de ce chercheur italien, c'est de poser des micros dans ces espaces protégés de la présence des hommes et d'enregistrer pendant 24 heures les bruits de la faune et de la flore. Restez donc en immersion dans ces territoires parfois hostiles. Olivier Varusfeld de l'IRCAM.
Donc 24 heures d'enregistrement, ça veut dire qu'en fait il restait tout seul dans la forêt équatoriale la nuit, et on peut imaginer assez facilement la sensation de peur, d'angoisse qui peut naître au moment où la nuit tombe complètement. Et on sait que voilà, au niveau de l'équateur, celle-ci va quand même durer 12 heures avec des bruits particulièrement étranges. Et donc il a évoqué le fait qu'à certains moments il a été pris quasiment de peur panique.
Depuis 1998, David Monacchi et ses équipes se pressent de sauvegarder ces sons en déclin à cause de l'action de l'homme.
L'idée là-dedans, c'est de montrer cette extrême diversité, et aussi, en fait, ce travail qui a été réalisé sur plusieurs années, c'est de montrer un certain appauvrissement. C'est-à-dire que l'activité humaine va générer un bruit de fond. Il est de plus en plus, en fait, difficile de trouver des lieux dans lesquels l'activité sonore d'origine humaine ne vient pas perturber la communication entre les différentes espèces. On constate la même chose aussi en milieu sous-marin avec les bruits des hélices et des moteurs qui certainement viennent polluer l'environnement des espèces sous-marines.
Ces forêts installées depuis des milliers d'années offrent une variété de sons précieux et rares pour ces compositeurs-chercheurs. De l'île asiatique Bornéo à l'Afrique en passant par l'Amazonie, ces micros ont capté les chants des espèces diurnes et nocturnes avec une acoustique propre aux forêts équatoriales, au feuillage dense.
Elle montre une richesse de profils sonores, des transitoires, des sons plutôt stationnaires, et puis elles se répartissent également, évidemment, l'échelle des fréquences, du très grave jusqu'au très très aigu. Si on prend les insectes, ça peut monter vraiment de manière très très haute, à 8 kHz ou même au-delà.
Ces enregistrements sont gardés et étudiés scrupuleusement par l'IRCAM et devraient être présentés au grand public au théâtre de Gennevilliers dès qu'il rouvrira ses portes. Et Saskia, si vous voulez tenter l'expérience d'écouter ces sons en pleine forêt, David Varusfeld vous recommande la Guyane, dont l'environnement se rapproche de cet univers sonore.
Bien, merci pour cette recommandation, chère Marie Jiquel, et puis merci pour ce reportage. À très bientôt sur France Musique.
Thank you.
Murray Peraya ici au piano pour cette aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, l'une des plus belles musiques au monde pour fêter ces magnifiques audiences recueillies. Vous êtes plus d'un million à vous brancher sur France Musique le week-end, soit 230 000 auditeurs de plus qu'il y a un an. Merci, merci à vous. Et puis continuez à partager notre belle radio parmi votre entourage. Et puis ce soir, par exemple, il y aura à écouter une magnifique version de l'opéra Aïda de Giuseppe Verdi. Elle sera vous sera proposé dès 20h, production enregistrée à la Scala de Milan il y a quelques semaines avec Roberto Tagliavini et Anita Rajvelijvili. Et puis le chef Riccardo Chailly à la tête de l'orchestre du théâtre de la Scala de Milan. Voici un petit avant-goût. L'orchestre du théâtre de la Scala de Milan, Riccardo Chailly à la direction, un extrait d'Aïda de Giuseppe Verdi, extrait de l'acte 2, Balabil ici. Opéra à écouter dans son intégralité ce soir dès 20h sur France Musique dans Samedi soir à l'Opéra avec Judith Chen à la présentation. Il est 8h et presque 30 minutes.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Écologie et culture, d'ici quelques jours, seront dévoilés les résultats d'une étude sur les pratiques de déplacement des festivaliers et sur leur impact environnemental et économique. Étude menée par le COFIS, qui est le collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région sud, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Eh bien, nous en parlons en avant-première ce matin sur France Musique avec Véronique Fermé, qui est coordinatrice de ce collectif. Bonjour Véronique.
Bonjour Saskia.
Et bienvenue sur France Musique. Alors, que représente l'impact carbone des déplacements des festivaliers à l'échelle d'une manifestation, d'un festival ?
Alors, c'est des études ont été menées par un certain nombre de festivals avant cette étude que nous avons nous-mêmes diligentée en 2019. Hein. Ça représente environ 80% des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, c'est des résultats qu'on retrouve pour toutes sortes de manifestations. Donc, c'est vraiment l'impact le plus important des festivals.
Et sur lequel eh bien les festivals peuvent agir, et on va en parler ce matin évidemment. Vous le disiez, pour cette enquête dont les résultats sont à paraître, 9 festivals ont été analysés, ce qui représente une jauge de presque un demi-million de festivaliers, festivals qui accueillent toutes sortes de publics, tous styles musicaux. Il n'y a pas que la musique classique ici qui a été sondée.
Tout à fait. Hein, nous avons des festivals de musique actuelle, de musique du monde, hein, qui ont participé à cette étude. Donc, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur les mobilités de différents types de festivaliers, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et leurs habitudes, leurs contraintes éventuelles, justement par rapport à ces déplacements, mais aussi leurs attentes et leurs besoins.
Préoccupations donc partagées par le Festival d'Avignon, le Festival d'Aix, Festival de la Roque d'Anthéron, ça ce sont pour les festivals plus classiques. Il y a aussi les Nuits Carrées, les Suds, les plages électroniques de tous styles musicaux confondus. Et ce qui est intéressant, ce qu'on apprend dans cette étude, c'est que Véronique Fermé, une grande majorité du public juge cette démarche éco-festival importante.
Oui, on a constaté que à peu près 90% des festivaliers estiment que la démarche environnementale est importante, ce qui montre qu'on a raison de se lancer dans ces démarches environnementales. C'est un de nos enjeux, hein, bien sûr, répondre à ces attentes. Un autre enjeu est aussi de répondre aux attentes de nos tutelles. On le voit actuellement. Le ministère de la Culture a beaucoup avancé sur le sujet. On en parlait lors des états généraux des festivals. Madame Bachelot disait qu'il fallait continuer à travailler sur ce sujet-là. Mais il y a aussi le CNM hein, qui, à travers certains appels à projets, pousse à la responsabilité des festivals.
Alors justement, parlons concrètement, Véronique Fermé, en termes de démarche, en termes d'action, qu'est-ce qui peut être mis en place avec les résultats de cette étude ?
Alors, on travaille en fait en collaboration avec des acteurs locaux, puisque cette étude a quand même été cofinancée par la région, le service mobilité de la région, le ministère de la Culture, la ville d'Avignon, mais aussi la SNCF ou Transdev, hein, qui sont des acteurs majeurs sur la région. On travaille aussi avec les chambres de commerce, avec les comités départementaux du tourisme, la prévention routière et Atmosud, hein, qui surveillent la pollution de nos espaces. Donc, on avec ces résultats, on va pouvoir réfléchir ensemble à un certain nombre d'actions. Déjà, communiquer sur l'offre existante, mieux collaborer justement sur ces sujets-là avec les transporteurs pour pouvoir informer les publics, puisqu'on s'est rendu compte aussi que pour trouver les informations de déplacement, les festivaliers allaient essentiellement sur les sites des festivals. On va pouvoir aussi mettre en place des mesures incitatives, pourquoi pas des billets couplés ou des petits cadeaux à ceux qui viennent en covoiturage. On va essayer aussi d'améliorer l'accueil des publics, dont les personnes à mobilité réduite, parce que c'est vrai que l'information n'existe pas toujours hein, sur l'offre de transport pour ces personnes-là, avec peut-être aussi des cheminements et des accueils particuliers. On va également travailler sur la mobilité des équipes et des artistes. Hein. Certains festivals déjà travaillent avec des véhicules décarbonés. On a pas mal d'actions que l'on va pouvoir mettre en place, déjà par les festivals, les organisateurs eux-mêmes, et ensuite avec ce travail avec les transporteurs pour renforcer éventuellement l'offre existante sur les transports en commun, peut-être des lignes spécifiques, des navettes plus importantes.
Voilà, des horaires adaptés aux horaires de concert. Hein. Réflexion donc menée avec les collectivités locales et les transporteurs, parce que, pour se donner une petite idée, les chiffres sont impressionnants. Hein. Je prends l'exemple du Festival de la Roque d'Anteron, que nos éditeurs connaissent bien. 93% des festivaliers utilisent leur voiture pour venir au festival, parce que festival un petit peu décentré, contrairement par exemple au Festival d'Avignon. Ils font donc accompagner les festivaliers autrement, Véronique Fermé.
Oui, je pense que c'est important justement cette étude de savoir quels sont leurs besoins et quelles sont leurs contraintes. Hein. On se rend compte effectivement que les festivals urbains ont plus d'offres de transport en commun que les festivals ruraux comme le Festival de la Roque d'Anteron, qui d'ailleurs met en place des navettes et cofinance des navettes. Mais ils ont aussi travaillé sur l'hébergement, parce que souvent c'est une problématique. Donc on voit sur leur site l'offre d'hébergement local. C'est un peu un soutien justement à cette démarche pour les aider à utiliser les transports quand ils sont quand ils existent. Et c'est vrai qu'on a constaté, chose assez étonnante, hein, que pour le Festival d'Avignon, ben, en fait, il n'y avait que 32% des festivaliers qui utilisaient leur véhicule personnel. Hein, plus de la moitié utilisaient soit les transports doux, soit les transports en commun. Donc comment favoriser les transports doux ? Ben, c'est par exemple mettre en place des parkings à vélo, sécurisé bien sûr, avec peut-être des petits stands pour réparer les vélos. Y a pas mal de petites choses comme ça qu'on peut mettre en place, comme entre autres mettre des bornes de recharge de téléphone, parce que certains festivaliers utilisent leur téléphone, leur voiture,
oui, c'est ça, pour recharger le téléphone,
voire même dormir sur place quand ils ne trouvent pas d'hébergement. Donc il y a cette question de l'hébergement qui est assez important, pour lequel il faut que l'on réfléchisse avec les acteurs locaux.
Alors ça, évidemment, c'est une volonté commune des festivals, hein, de verdir leurs pratiques. Ils ont pour cela besoin quoi, d'un accompagnement financier ?
Pas uniquement. Je pense que il y a aussi cette réflexion à avoir, c'est comment justement communiquer sur ce qui existe et faire comprendre aux transporteurs que bah, parfois il faut peut-être adapter ou même informer, mieux informer, même dans les gares, pourquoi pas faire un accueil spécifique pour que les derniers kilomètres soient facilités. C'est toujours compliqué, effectivement, la question environnementale dans les festivals et ce besoin financier. Mais parfois, il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place. Hein. Comme je vous disais, cet accompagnement, cette communication. Donc c'est vrai qu'on a besoin de travailler en collaboration avec les transporteurs, mais aussi revoir nos propres pratiques.
L'Aragonaise, extraite de Carmen de Georges Bizet. Véronique Fermier, vous êtes coordinatrice du COFIS qui a donc mené cette enquête sur les déplacements des festivaliers, mais vous êtes également chargée de mission au développement durable du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence, festival très engagé en matière d'écologie. Alors évidemment, Carmen, on ne l'a pas choisi par hasard hein, ce matin, Véronique.
Oui, tout à fait. Hein. C'est notre première production 100% éco-responsable avec un décor 100% réutilisable, recyclable, zéro polystyrène. C'est quand même un gros décor. Hein. 16 tonnes, 750 éléments. Et donc, c'était le Carmen de Dimitri Tcherniakov en 2017. Et c'est le fruit d'un travail que nous menons depuis 2014 déjà.
Qu'est-ce qui a donné envie au festival justement de s'engager sur cette voie-là ?
Alors on avait fait en 2012 un bilan carbone, on s'était rendu compte comme je disais tout à l'heure qu'on avait 80% de nos impacts qui étaient dus au déplacement et on s'est dit comment on peut nous travailler vraiment à réduire notre empreinte environnementale et comme on est producteur et constructeur de décors, on s'est dit c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on commence à travailler puisque on construit 3 à 5 décors par an dans nos ateliers de Venelle, ils vont tourner entre 3 à 5 ans et puis après ils reviennent chez nous. Et on les déstocke et on les jette. Donc on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas éviter justement de les jeter et avoir une réflexion très poussée sur l'économie circulaire, hein, qui est un grand mot, mais qui est aussi un sujet d'une loi actuelle sur l'économie circulaire. Et avec l'aide de l'ADEME et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a pu commencer à travailler autant sur nos propres productions, mais sur des outils aussi que l'on partage avec d'autres maisons d'opéra.
Et on en a parlé la semaine dernière avec Timothée Fleury, responsable du bureau d'études de l'Opéra de Lyon, de ces outils qui sont en test, encore en phase test, et qui vont être, on l'espère, partagés à part de grandes maisons à travers la France. Est-ce que, tiens, c'est plus facile de concevoir des décors 100% en éco-conception pour un festival que pour une grande maison d'opéra ? Est-ce qu'on a plus de temps pour dans le cadre d'un festival, Véronique Fermier ?
Oui, tout à fait. Hein. Nous, on a à peu près un an pour construire ces décors, donc ça nous permet de tester autant les matériaux que les process. Donc c'est comme ça que justement on est arrivé à ne plus utiliser de polystyrène en le remplaçant par du liège. C'est d'ailleurs le cas du Carmen. Hein. On a réussi à faire les pierres de rogne qu'on voit sur les murs totalement en liège. Même le metteur en scène ne s'en est pas rendu compte. Mais ça demande quand même d'avoir une réflexion en amont assez poussée sur justement que vont devenir ces décors en fin de vie quand on arrivera justement au moment du déstockage. Et ça, c'est des habitudes, de nouvelles habitudes de travail qui parfois ne sont pas évidentes, de nouvelles contraintes. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était rentré dans les mœurs. Et autant les directions techniques, le bureau d'études que les ateliers avaient bien intégré ça dans leur procédure et dans leurs travaux.
Alors là, on parle du secteur de l'opéra, Véronique Fermier, de ses collaborations avec l'Opéra de Paris, le Châtelet, la Monnaie à Bruxelles, l'Opéra de Lyon. Mais cela ne concerne que l'opéra. Est-ce qu'on peut imaginer une collaboration à l'échelle du secteur culturel ? Je parle notamment en termes d'économie circulaire, des scénographies. Timothée Fleury nous parlait la semaine dernière d'imaginer la standardisation de certains éléments de décor. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer de partager entre l'opéra, le théâtre, les salles de musiques actuelles pour certains éléments.
Alors c'est vrai que ça c'est aussi un des travaux que nous menons justement sur cette standardisation. Alors déjà commençons par le monde de l'opéra parce qu'on a quand même pas mal de choses à échanger puis nous avons des coproductions donc c'est beaucoup plus facile de travailler justement avec l'Opéra de Lyon sur cette problématique de standardisation pour ne faire voyager et transporter que les parements en fait des décors et pas toutes les châssis. Mais c'est vrai quand on a commencé à travailler, on pensait déjà être un peu fou d'imaginer de travailler sur l'économie circulaire dans ce sens-là. On a mis en place des laboratoires, des rencontres déjà en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis après au niveau national et sont venus à ces laboratoires bien sûr les maisons d'opéra, les théâtres et on a vu arriver production audiovisuelle, le cinéma, la télé, le cirque et les musées. Et là, on s'est dit, bah, effectivement, il y a des choses à faire ensemble parce qu'ils ont les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'ils vont concevoir des scénographies peut-être moins imposantes, mais ils ont cette même problématique de fin de vie, de matériaux. Et on a commencé à échanger sur, bah, est-ce que vous n'avez pas tel ou tel matériau à nous céder parce qu'on n'en trouve pas et puis on voudrait faire justement de l'économie circulaire. Donc, il y a eu vraiment cet échange. On a cassé les murs finalement, on a commencé à travailler avec eux, on collabore entre autres sur la région avec le MUCEM. Qui a vraiment cette réflexion poussée sur qu'est-ce qu'on fait et comment on conçoit nos scénographies. Donc je trouve que c'est très intéressant justement d'avancer ensemble. Parmi les outils que nous on a développé, on a un guide méthodologique de conception des décors. Alors bien sûr sur notre modèle à nous, un festival, et on est en train de rédiger la version 2 et on a fait appel justement à tous ces acteurs en leur demandant ben, qu'est-ce qui serait intéressant d'ajouter dans ce guide qui pourrait vous servir. Et on travaille également à une matériothèque. Puisqu'on teste des matériaux chez nous, mais il y en a d'autres qui testent d'autres matériaux, que ça soit justement dans le cinéma ou le cirque avec lequel on collabore beaucoup.
Et il y a certainement effectivement de bonnes pratiques à partager, Véronique Fermier. J'aimerais qu'on dise deux mots de ce réseau R2D2, collectif des réseaux régionaux d'accompagnement des manifestations en développement durable. En quoi est-ce différent? En quoi le Festival d'Aix est-il, engagé?
Alors, ce collectif informel réunit 8 dispositifs d'accompagnement dans différentes régions en France. Au départ, on s'est rencontrés pour échanger sur nos bonnes pratiques. Et puis finalement, on a commencé à se dire, est-ce qu'on pourrait pas mener ensemble des actions collaboratives? Et on a justement adapté une charte anglaise qui s'appelle Drastic on Plastic, pour lequel 60 festivals anglais avaient signé. Et nous, on a voulu apporter quelque chose de supplémentaire, en fait, et surtout valoriser cette charte. Donc, il y a un gros accompagnement des festivals qui signent la charte. Et aujourd'hui, on est très, très fiers. On a battu les Anglais et nous avons 100 festivals qui ont signé cette charte.
Allez-y.
Et c'est vrai que ça fait partie, voilà, des projets qui sont importants. On travaille aussi sur l'accueil des artistes, comment accueillir plus de façon plus responsable les artistes, et cette fois-ci de tout type de disciplines artistiques, que ce soit bien sûr les musiques actuelles qui sont très en avance sur le sujet, mais aussi les artistes de théâtre.
Et une large majorité des publics qui jugent la démarche éco-festival importante avec cette constatation, Véronique Fermier, aucune raison pour toutes les salles de spectacle, les festivals, les collectivités locales, les transporteurs de se réunir encore à l'avenir pour améliorer cet accueil du public, évidemment aussi très important. Je rappelle cette étude sur les pratiques des déplacements des festivaliers, étude menée par le COFIS, dont les résultats seront dévoilés la semaine prochaine. Merci beaucoup, Véronique Fermier, d'avoir été des nôtres ce matin. Bonne continuation. Tenez-nous au courant, surtout de l'évolution des choses. Et puis, on aura le plaisir certainement de vous accueillir à nouveau sur nos ondes. À très bientôt.
Merci, au revoir.
L'Allegro, dernier final de ce quintet à cordes numéro 3 de Mozart, interprété par le Quatuor Van Kuyk. Et puis, je ne retombe plus sur le... Ah, c'est terrible. Tu vois le musicien Christophe Chassol qui rejoint. Oh là là, je vais le retrouver. Non, on va d'abord passer à la chronique de Christophe Chassol. Oui, et puis, voilà, c'est Adrien Lamarca. Qu'est-ce que je raconte? Mille excuses, Adrien, si tu nous écoutes de grand matin. Adrien Lamarca qui rejoint donc le Quatuor Van Kuyk sur ce disque paru chez Alpha. Il est 8h50.
Chère auditrice.
Christophe Chassol, bonjour.
Bonjour Saskia Deville.
Vous écoutiez une compositrice matin à vélo.
Oui, j'écoutais Meredith Monk, que j'adore, parce que je l'ai découverte au même moment où j'ai découvert Steve Reich, Philip Glass, John Adams, tous ces gens du minimalisme américain, plutôt new-yorkais. Et aussi côte ouest aussi, puisque Terry Riley, lui, était de la côte ouest. Voilà, j'écoutais beaucoup de Meredith Monk et je l'avais un peu oubliée. Et je ne sais pas pourquoi, parce que elle est géniale. Ça vous fait rire,
Bah oui, c'est communicatif,
oui,
quand même.
Ok. Le morceau d'après, c'est biographie, elle parle du deuil. Je vais vous le passer après. Non, mais c'est vrai que le rire rythmique, c'est quelque chose qu'on n'entend pas si souvent. Mais d'ailleurs, Meredith Monk, elle a influencé pas mal de monde, beaucoup d'artistes, mais même aussi des artistes vidéo, des artistes contemporains plastiques. En vidéo, Bruce Nauman, très connu. Très très connue. Mais ses techniques, elle a une technique de chant, on appelle ça le chant étendu, donc c'est plein de techniques de bourdonnement, de. Je sais pas, il y a des milliards de techniques, des cris, des pleurs, des. Bah écoutez. Ah. Ok, ça c'est Dying. Donc là, elle imite le mourning, quoi, quand on.
Le deuil.
Le deuil, mais quand on se penche en avant et en arrière, comme ça. Alors tout ça, toute cette musique, elle est sur un album qui s'appelle... Attendez, je laisse un petit peu. Toute cette musique vient de l'album Dolmen Music. Elle était en tournée dans la fin des années 70 avec ses musiciens en Bretagne. Et les Dolmen l'ont inspirée. Je vous ai fait un montage là, en fait, parce que les morceaux sont assez longs.
On est toujours sur le même morceau.
On est toujours sur biographie. On va passer maintenant au titre phare, les 24 dernières minutes, c'est Dolmen Music. Donc. Alors il se passe beaucoup de choses dans Dolmen Music. Il y a ce motif qui revient tout le temps. Alors je vais vous parler encore une fois un peu de minimalisme. Elle réfute un peu d'appartenir à ce courant, mais bon, je trouve quand même qu'elle a beaucoup des techniques minimalistes. Qui sont alors les trois choses du minimalisme. On écoute un petit peu, pardon. Alors, le minimalisme, je vais vous dire un peu, il y a trois choses. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais c'était... les choses, c'est une pulsation constante, une pulsation constante, toujours à tout le rythme, toujours la pulsation. Bon, elle est danseuse, chorégraphe, metteur en scène aussi. Hein, voilà, c'est multidiscipline, Meredith Monk. Donc la pulsation constante, la tonalité, on est ancré dans une tonalité, on part pas dans la tonalité de la musique contemporaine, on va dire. Et la plus importante pour moi, ce qui est à l'œuvre ici, c'est les processus graduels de transformation. On a une petite chose, une petite cellule qui va se transformer au fur et à mesure. Donc par exemple, on a voilà, c'est ça le processus graduel de transformation.
Dans détail,
à chaque fois, on rajoute
variation.
Quelque chose. Et ça peut aller dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut enlever un détail et à revenir à la plus petite cellule. Alors donc la deuxième partie de Dolmen Music, on va écouter, je vous ai fait un montage. Voilà. Donc c'est pour voix, percussion, violon, violoncelle.
Ah,
Il y a quelque chose d'antique, en fait.
C'est ça que j'allais dire.
Ouais. Comme quand on avait écouté Alex North et Spartacus, ouais. Vous vous souvenez ?
Ouais.
Ils arrivent à faire quelque chose de moderne et antique en même temps. Bon, il y a beaucoup aussi de la musique indienne là-dedans, hein, aussi. Donc moi, c'est une musique que je trouve assez géniale, là, en roulant à vélo. C'est une musique qui est lente et rapide à la fois. C'est-à-dire que les choses avancent vite, mais progressent lentement. Vous voyez ?
Je vois très bien.
Et à l'intérieur d'une chose, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais cette chose avance lentement. C'est ce qui est génial dans cette musique minimaliste, moi, je trouve. Elle nous donne le temps de modeler l'espace et le temps, justement. Ah, c'était beau.
C'est magnifique.
Il y a quelqu'un d'autre qui me fait penser à Meredith Monk, mais vraiment encore plus exagéré dans la gestion des silences, des temps, c'est Morton Feldman. Alors bon, moi je conseille vraiment à tout le monde d'aller écouter n'importe quoi de Meredith Monk et d'aller regarder sur YouTube Meredith Monk en studio. On la voit avec ses musiciennes et ses musiciens en train de dérouler tout ça. Vraiment, elles font ces techniques vocales assez dingues. Et si on rentre vraiment dedans, on y gagne beaucoup pour sa vie personnelle, je trouve.
Une musique qui avance vite, mais qui progresse lentement.
Exactement.
Ce sera la formule du jour. Merci beaucoup, Christophe, pour cette très belle chronique à réécouter sur francemusique.fr, à partager, chers auditeurs. Continuez à être nombreux. Christophe, il y a plus d'un million d'auditeurs qui sont branchés chaque week-end sur France Musique.
Le million,
exactement. En tout cas, il y a une grande cycliste qui va nous accompagner pour la suite. C'est Gabrielle Olivier-Aguillon pour France Musique. À vous, Gabrielle, un peu de Meredith Monk sur la route, ça pourrait vous brancher ?
Ah, pourquoi pas, parce que je viens à vélo aussi.
Ouais. Oui, je sais. C'est pour ça que je le dis.
Et ça me faisait penser à la phrase de Jules Renard, la vie est courte, mais comme c'est long, de la naissance à la mort.
Voilà.
C'est un peu ça.
Exactement.
C'est un peu ça, oui.
Gabrielle, un petit mot sur l'émission de ce matin.
Eh bien, comme d'habitude, nous attendons les auditeurs qui vont nous dire en direct ce qu'ils ont envie d'écouter. Alors, quelques titres déjà, des noms de compositeurs. Schubert, Bach, Sidney Bechet même, Robert Schumann.
J'ai pas entendu Schubert.
Schubert. Il faut demander à Saskia pour le prénom.
Voilà.
Bon, voilà, la suite, c'est la surprise. À tout. Bon week-end.
Mais bon week-end à vous. On vous retrouve tout de suite. Et puis, chers auditeurs, juste avant de vous quitter, un petit mot sur notre concours. Je vous proposais de remporter le premier guide numérique publié par la Lettre du Musicien en partenariat avec France Musique. Christophe Chasson me regarde avec un grand sourire et attend ma question.
Oui, voilà votre
question. Ça a dit, il fallait être à l'écoute. Je crois que vous étiez en train d'écouter Meredith Monk sur votre vélo. Il fallait deviner le nom du guitariste que nous écoutions un petit peu avant 8h. Et bien, c'était Thibaut Garcia. Voilà, comme ça,
c'était
vous savez.
Thibaut Garcia?
Voilà, c'est celui-là même.
D'accord.
Mais voilà, je me disais aussi que vous le saviez. Merci évidemment à toute l'équipe, merci à Marie Ferdinand, Félix Levaché, José Bernays et Emmanuel Dupuis, et merci à vous encore, chers auditeurs. Je vous souhaite une très très belle journée et puis une bonne continuation avec Gabrielle sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.